au journal dans moins de 20 minutes. Et le point sur le sommet pour l'Ukraine à Londres aujourd'hui. On parle aussi de ces affrontements en Syrie. Un membre du groupe HTS au pouvoir tué dans un affrontement en banlieue de Damas avec les Druzes. Israël menace d'intervenir sur le sol syrien. Vous entendrez Mohamed Errami à Damas. À suivre d'ici là notamment l'Afrique en marche et le tout premier concours de robotique au Mali. Et tout de suite les sports. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Julien.
Du cyclisme et le Tour du Rwanda 2025 qui s'achève aujourd'hui, rien n'est joué.
Oui, en témoigne le changement de leader au classement général hier à l'issue de la sixième étape remportée en solitaire par l'Érythréen Naom Zeraï. Le Français Fabien Doubet a repris le maillot jaune qu'il avait déjà enfilé en début de semaine, mais son premier poursuivant, un autre Érythréen, Enoch Mouloubran, n'est qu'à 6 petites secondes. Autant dire qu'il aura une carte à jouer lors des 74 derniers kilomètres de cette édition. Une septième et ultime étape sélective, version courte du tracé des championnats du monde de septembre prochain au même endroit. Un enchaînement de côtes et de pavés, les deux ascensions du mur de Kigali et du mont Kigali dans le rôle de juge de paix. Et malgré la fatigue, pas moyen de temporiser, estime Enoch Mouloubran.
Ce sera à fond du début à la fin. J'espère que je serai au rendez-vous. C'est la dernière étape. Tout le monde a les jambes bien lourdes. On verra comment ça se passe. Mais ça va être très compliqué, surtout la montée du mont Kigali. C'est quand même 5 km à 7,5% de pente moyenne. Je pense que ça va se jouer là.
Des propos recueillis par Thomas de Saint-Léger.
En football, la suite de la seconde phase des éliminatoires du CHAN. C'est le premier tour. Allez.
Et deux matchs au programme aujourd'hui. Comores Malawi, 13h temps universel. Et Afrique du Sud-Égypte à 15h TU. On rappelle que vendredi, la Gambie et le Gabon avaient fait match 0-0.
Et encore une belle journée pour les buteurs africains dans les championnats européens.
En Bundesliga notamment, où Serhou Guirassy a ouvert la marque pour le Borussia Dortmund face à Sankt Pauli. Victoire 2-1 pour le PFAOB et 14e but de la saison en championnat pour le Guinéen qu'on reverra certainement mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Lille. Les nordistes, eux, pas du tout mis en confiance par leur lourde défaite hier soir au PSG 4-1. Lors de la 24e journée de Ligue 1, les Parisiens comptent provisoirement 16 points d'avance sur Marseille qui reçoit Nantes ce soir. Si le président de l'OM, on le sait, Pablo Longoria, a été suspendu 15 matchs pour ses violentes critiques sur l'arbitrage, il n'a donc plus accès notamment au terrain. On y retrouvera bien sur la pelouse Geoffrey Kondogbia, le défenseur centrafricain de 32 ans, désormais incontournable aux yeux de l'entraîneur Roberto De Zerbi pour son expérience, mais aussi sa zénitude, y compris après le 3-0 encaissé le week-end dernier. Geoffrey Kondogbia.
C'est vrai que le coach me fait beaucoup confiance là-dessus. Naturellement, quand on vit ce genre de semaine après une lourde défaite, j'essaye d'être le plus calme possible. Pas à travers mes paroles, mais d'abord à travers mon comportement. D'être exemplaire sur le terrain et en dehors. Et après, d'être disponible pour le groupe. Parce que je pense que je suis l'un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cet effectif. Donc naturellement, il faut que j'essaye de la partager sans prétention. Mais c'est vrai que le coach m'accorde la confiance là-dessus. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de le rendre au maximum.
Geoffrey Kondogbia au cœur de la défense de l'OM face aux Canaries à partir de 19h45, temps universel. Hier, le Havre est allé arracher une spectaculaire victoire à Lens, 4-3, grâce à un pénalty de l'Égyptien Ahmed Hassan à la 90e minute. Mais le Sénégalais Issa Soumaré et le Ghanéen André Ayew ont également marqué. Enfin, les débuts américains réussis de Wilfried Zaha, l'ailier ivoirien de 32 ans, parti de Lyon au Mercato pour rejoindre Charlotte en MLS, la Major League Soccer, a inscrit son premier but sous son nouveau maillot lors du match contre Atlanta, match qui comptait pour la deuxième journée.
Merci Christophe Diremzian, à tout à l'heure. Bonjour Catherine Potel.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse, des hebdomadaires et des journaux du dimanche et à la une la France qui réplique après l'altercation Trump-Zelensky.
C'est sans surprise Emmanuel Macron qui mène la contre-attaque dans la Tribune dimanche, le Parisien dimanche et le Journal du dimanche auquel il a accordé un entretien. Reprenant une phrase d'Emmanuel Macron, la Tribune dimanche titre « Notre sécurité est en jeu ». Malgré l'humiliation que Donald Trump a fait subir vendredi à Vladimir Zelensky dans le bureau ovale, le président français estime que la destinée manifeste des Américains est d'être du côté des Ukrainiens. Et il ajoute « Nous sommes tous d'accord pour faire la paix, mais il ne peut y avoir de paix juste et durable avec un abandon de l'Ukraine ». Emmanuel Macron appelle au sursaut européen, titre de son côté le Parisien dimanche, alors que le Journal du dimanche précise lui aussi que Macron veut une paix durable et rejette toute capitulation face à l'incertitude américaine. « L'Europe cherche la parade », ajoute le Parisien. Parisien dimanche. Pour Emmanuel Macron, laisser l'Ukraine sans garantie de sécurité, c'est permettre à la Russie, sans zone tampon, de dévorer la Moldavie et de venir aux frontières de la Roumanie. De tout cela, les dirigeants européens discuteront aujourd'hui à Londres. Après la gifle de Washington à Zelensky, conclut la tribune dimanche, les Européens font face à des défis sécuritaires inouïs. S'ils ne veulent pas disparaître de la scène internationale, ils se doivent de prendre conscience du moment historique que nous traversons.
Face à l'omniprésence de Trump sur la scène internationale, certains croient en tout cas que la France peut tirer son épingle du jeu.
Oui, c'est le cas d'Hubert Védrine. Dans Marianne, l'ancien ministre des Affaires étrangères estime que nous sommes une puissance moyenne d'influence mondiale. Ce qui n'est pas rien, dit-il. Il y a 193 pays à l'ONU, dont 180 ne sont pas des puissances. Nous avons des atouts que les autres n'ont pas. Nous avons la bombe, nous siégeons au Conseil de sécurité, nous avons un poids fort en Europe. Alors, que faire de tout cela? Interroge Hubert Védrine. Il faut, répond-il, s'appuyer sur notre capacité de dissuasion et miser sur nos capacités industrielles avec la question du réarmement. Mais sur qui la France pourrait-elle s'appuyer? Selon l'ancien ministre, il faut savoir penser au niveau français dans certains cas et au niveau européen dans d'autres.
En ces temps agités où Donald Trump est bien souvent à la une des journaux et des hebdomadaires, le nouvel Obs, lui, fait exception cette semaine.
L'hebdomadaire fait sa une avec un prix Nobel de la paix, l'iranienne Narges Mohammadi, qui lui a accordé une interview alors qu'elle bénéficie actuellement d'une liberté provisoire pour raison de santé. Elle aurait pu se faire distraite, mais non, j'utilise ma libération conditionnelle pour renouer avec mes proches, dit-elle, pour voir un maximum de personnes qui viennent me rendre visite à la maison et pour témoigner sur les prisons iraniennes et la répression du régime, en particulier depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car Narges Mohammadi est une battante, je ressens encore les séquelles de mes années d'incarcération, raconte-t-elle, mais psychologiquement, je suis toujours debout, la prison n'a jamais réussi à me briser. Le prix est pourtant cher à payer, la prix Nobel de la paix n'a pas vu ses enfants qui vivent en France depuis 10 ans. Dès l'université, explique Narges Mohammadi, je savais que je me battrais pour la liberté en Iran. Ce combat est devenu le fil conducteur de mon existence. C'est celui qui me porte aujourd'hui, malgré la séparation avec mes enfants, malgré la prison, malgré la douleur. C'est la conviction profonde qu'il y a un avenir possible en le fondant sur le respect de la vie humaine.
Enfin, de son côté, l'Express s'intéresse aux ambitions de François Hollande.
Aux yeux de l'hebdomadaire, l'ancien président, désormais député, est redevenu un acteur central au sein du Parti Socialiste et rééquilibre le rapport de force avec Jean-Luc Mélenchon. Quel est son état d'esprit? Selon l'Express, François Hollande ne rêvait pas de redevenir député, mais il a vite compris que c'est au Palais Bourbon que la politique se faisait désormais. C'est surtout là que le futur de la gauche se prépare, uni ou non. Il est souvent sollicité, consulté, écouté. L'ex-président boit du petit lait, nous dit l'Express, qui se souvient qu'au printemps dernier, en pleine campagne des européennes, l'homme était encore radioactif à gauche. Quant à ses éventuelles ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. Ses amis remarquent qu'il n'arrête pas, voit plein de gens, enchaîne les réunions publiques et qu'il est, selon les mots d'un sénateur, le mieux préparé de tous. Affaire à suivre.
Et on la suivra. Merci Catherine Potet. Et dans l'Afrique en marche ce matin, la robotique en marche à Bamako, au Mali, avec le premier concours de robotique organisé par un jeune ingénieur passionné. Youssouf Sall a initié en novembre dernier le Malibot Challenge, Frédéric Gara.
À Bamako, Youssouf Sall, électronicien et informaticien, est un passionné de robotique. Surtout, ce qui l'enthousiasme, c'est le génie créatif de ses jeunes contemporains. Voilà pourquoi, en novembre dernier, il a décidé, sur fonds propres et avec quelques généreux sponsors, d'organiser le premier concours robotique à Bamako, le Malibots Challenge, pour 5 équipes dans 5 catégories différentes. Youssouf Sall.
Malibot Challenge, l'objectif c'était la démocratisation des nouvelles technologies informatiques, électroniques, robotiques et tout ce qui s'ensuit. Rendre vraiment les technologies disponibles pour le plus grand nombre de Maliens et sans frais, parce que l'accès à ces technologies-là demande des frais. Donc on s'est dit, la meilleure façon de faire profiter le maximum de jeunes Maliens, c'était de les faire participer à ces compétitions-là, que ça serve de grande science de la fête, de grande fête de la science, au profit des jeunes du Mali. C'est vraiment ça l'idée derrière.
Drones, robots en catégorie universitaire ou lycéenne, développement d'applications. Les challenges robotiques de novembre dernier à Bamako ont donné lieu à une formation des concurrents pour l'assemblage et la programmation, suivi du concours lui-même, avec toujours l'objectif d'une application concrète.
C'est ce qu'on a voulu en fait. On a voulu que ça soit axé sur un thème qui puisse servir au Mali. Par exemple, pour le cas du drone, on a voulu que des jeunes maliens se forment au pilotage des drones pour que si jamais demain ils veulent devenir policiers, agents de force de sécurité, qu'ils aient cette compétence-là pour pouvoir aider le pays. Les deux autres secteurs, nous les avons axés sur l'agriculture. Donc, il y a un tapis qui va simuler un champ et les jeunes avaient pour objectif de concevoir le robot pour qu'il puisse faire des tâches et de façon autonome. À un moment donné, il devait venir déclencher la pompe d'arrosage, arrêter la pompe et tout ça de façon autonome.
Le docteur Bonkana Maïga est enseignant et chercheur à l'université privée Bazo de Bamako. Bazo qui a accueilli le premier concours Malibot.
Il va de soi que ça donne l'occasion aux jeunes de se surpasser, mais aussi de tester éventuellement leur création. Donc, et aussi d'avoir des retours de la part d'experts et ce qui est de nature à les encourager pour la suite. C'est d'encourager les jeunes maliens à aller vers plus les métiers techniques parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir industrialiser un peu plus notre pays, mais également encourager tout ce qui est service autorité aussi à encourager en fait ces genres d'initiatives.
Ce qui a le plus séduit l'une des concurrentes, Awa Sissoko, 20 ans, étudiante en gestion, c'est une machine à broderie permettant d'améliorer très nettement la qualité et la quantité d'ouvrages de couture.
Oui, bien sûr que ça nous intéresse, même ici au Mali. À cette formation, lorsque M. Youssouf nous a envoyé de faire la broderie numérique, il y avait nos maîtres et maîtresses aussi qui nous ont expliqué des machines. Bon, au Mali, ici, c'est pas facile de trouver ces machines ici. Donc, c'est ça même qui nous fatigue. Sinon, lorsqu'on a trouvé les machines, avec la machine, là, on peut bien faire la broderie. Mais ici, c'est pas facile de trouver la machine. C'est ça les grands problèmes ici au Mali.
Une machine à broderie automatique, c'est bien, estime Youssouf Sall, mais dans les prochains mois, lors du nouveau challenge Malibots, il s'agira de ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Par exemple, cette année, on veut faire un projet de voiture électrique autonome. On veut réunir une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur la mécanique, sur l'électronique, sur l'informatique, leur donner comme projet de l'année qui va s'étaler sur 6 mois, de concevoir une voiture électrique autonome. Et le jour de la finale, la voiture devra venir être présentée. Les Maliens verront que voici des universitaires maliens ont travaillé sur une voiture électrique autonome et voici le résultat, ça fonctionne.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche que vous retrouvez quand vous le voulez sur RFI.fr. Et bientôt 6h en temps universel, bientôt un nouveau journal sur RFI. D'abord de la musique avec un Français qui s'est fait découvrir sur les réseaux sociaux. Il se filmait dans sa chambre, il remplit désormais des salles entières. Opinard et son titre Le Feu dans notre sélection du mois d'RFI.
Le feu s'est éteint, il s'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi. Et c'est si dommage que l'on soit du soir au matin en constant désaccord. Baby, quand est-ce qu'on se met d'accord? Quand est-ce qu'on se met d'accord? Le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. J'ai repensé à nous deux, je ne cesse de repenser à nous. Baby, donne-moi une heure ou deux, ça nous changerait la vie. Je sais que ça paraît insensé, mais j'essaie de faire au mieux pour qu'un beau soir on se retrouve tous deux à danser sous le vent, sous la pluie. Rien que pour toi, je me ferai plus beau que la veille. Rien que pour toi, j'irai. Chercher luxe et étincelles. Et si jamais j'ai été décevant, y'a pas plus simple pour toi. T'auras juste à le dire, à me souhaiter bon vent. Je comprendrai tout seul que le feu s'est éteint. Le essayer de te faire sortir de ma tête, mais je pense qu'à présent c'est mort.
De la bossa nova à la française, Opinard et son titre Le Feu dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans 1 minute et 30 secondes. À tout de suite.
Le feu s'est éteint, il s'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi, et c'est si dommage que l'on soit du soir au matin. Constant désaccord, baby, quand est-ce qu'on se met d'accord? Quand est-ce qu'on se met d'accord? Le feu s'est éteint.
Musique du monde. Laurence Alloir.
La session live reçoit deux groupes, deux poids lourds de la musique africaine, avec un peu de France dedans, en tout bien tout honneur. Les Congolais Jupiter et Okoes pour la sortie de Ekoya et Arat Kilo pour l'album Danama. Arat Kilo, des Français fous d'Éthiopie, mais qui chantent en bambara avec la voix de Mamani Keita et du slammer américain Mike Ladd.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10.
RFI.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix. En partenariat